Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM Radio, bienvenue dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy, l'émission Culture d'IDFM. Ce soir, je vous emmène en voyage, dans un voyage dans l'imaginaire, dans un voyage qui va nous amener à la fois à quelque chose de très concret, vous allez le voir, et aussi à un voyage dans le rêve, dans l'imagerie, dans la petite fabrique des images, petite ou grande fabrique. Il se trouve que nous sommes dans un établissement d'étudiants où une des 50 meilleures écoles au monde où on forme des créateurs, des graphistes la culture et de la création digitale. Nous sommes à l'école ou à la Villa Artefix, c'est encore plus beau. On est à Enghien, à 20 mètres du lac, on traverse la rue et on est au bord du lac d'Enghien et nous sommes donc en compagnie de Vivienne Domenreif qui dirige cet établissement et avec qui on va rencontrer des étudiants, on va rencontrer d'autres responsables de l'école, mais dans un premier temps on va faire connaissance avec Vivienne Domenreif et on a beaucoup de choses à voir, à apprendre. Ce centre est encore pas très connu, bien que la relation entre Enghien, la ville d'Enghien, et cette école, Artefix, pour la nommer, il y a déjà une histoire de quelques années. Vivienne Domenreif.
Bonjour, je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc je suis Vivienne Domenreif. Je suis née aux États-Unis, à New York, et je suis venue en France quand j'étais petite parce que mon père était français. Donc j'ai été élevée en France, j'ai fait toutes mes études en France et j'ai commencé ma carrière en France. J'ai passé un DEUG d'art plastique très jeune, mais j'avais comme rêve de travailler dans le cinéma et de faire de la réalisation. Et j'ai eu la chance de commencer à faire un stage, de faire mon premier stage chez Dubois, qui avait travaillé sur les films de Jean-Pierre Jeunet, Alien 4, et qui par la suite avait travaillé sur le premier Astérix et Obélix. Voilà, donc
une première expérience déjà très avancée, très jeune, de post-production, de graphisme aussi, de responsabilité sur des projets, je dirais, multimédia, comme on dirait.
Oui, exactement. J'ai été au départ stagiaire et au bout de 2 mois, on m'a proposé un contrat. Et on a vu que j'avais quelques facilités de gestion. Donc, on m'a proposé de travailler en 3D et de gérer des équipes sur une série en images de synthèse pour Canal+. Donc, j'ai commencé comme ça. Et initialement, je devais travailler avec un responsable, un directeur de post-production qui n'a jamais voulu travailler sur de la série parce qu'il avait été embauché pour faire du long métrage. Et par conséquent, j'ai été propulsée chargée de post-production sur cette série. Et par la suite, j'ai pris la responsabilité, toujours en images de synthèse, d'autres films qui venaient et de films publicitaires également. Donc, long métrage et films publicitaires. Et par la suite, j'ai quitté l'entreprise pour travailler pour d'autres sociétés, et là en freelance, et j'ai commencé ma carrière comme ça, dans d'autres entreprises d'effets spéciaux.
Alors voilà, c'est ça, on est à la fois dans un lieu d'enseignement, de formation plutôt, vous êtes complètement impliqué dans l'entreprise, dans la création, dans l'industrie de l'entertainment.
Oui, dans l'entertainment, Exactement, depuis 25 ans maintenant. J'ai énormément, enfin ma carrière c'est surtout été faite en publicité, puisque j'ai fait énormément de films publicitaires pour des boîtes de production, pour des studios, des effets spéciaux, en tant que directrice de post-production. Et j'ai aussi fait un passage dans deux agences de pub parisiennes, Publicis en tant que productrice, et ensuite BETC en tant que directrice de post-production et responsable, au départ bras droit du responsable du studio, mais après responsable du studio de post-production avec montage et effets spéciaux. Voilà.
Donc vous avez été au contact de la création, et ça c'est quelque chose qui vous suit depuis 25 ans et que vous administrez ici avec votre pêche, votre énergie qui est extrêmement communicative, et je pense que les étudiants en sont très très contents. Je parlais de la relation d'Anguin avec cet établissement Artefix, avec la création digitale. Ça fait maintenant près de 15 ans que la ville d'Anguin est associée au réseau des villes numériques, avec il y a toute une histoire qui lie Anguin à ça. Et est-ce que vous en sentez un tout petit peu l'héritière et la gestionnaire justement de tout cela?
Alors, personnellement, non, mais c'est vrai que Artefix, pas simplement la ville Artefix, hein, mais Artefix qui initialement est une école, on est trois écoles, la première école est à Montpellier, nous avons été créés il y a quelques années ici à Anguin, et il y a aussi l'école de Lille qui va avoir un nouveau bâtiment d'ailleurs l'année prochaine et qui accueille déjà 350 élèves cette année. C'est vrai que Artefix entretient un rapport très très fort avec Anguin, notamment parce que la mairie d'Anguin, la ville d'Anguin a mis en place énormément de salons, d'éléments autour de l'art numérique, le PIDS par exemple, auquel nos élèves participent et nous participons, et je crois savoir que Anguin est une ville, je crois, auprès de l'UNESCO, comme la ville d'art numérique. Voilà, donc c'est tout à fait un endroit qui est tout à fait en phase avec notre vision Artefix, puisque nous faisons de l'art numérique et des effets spéciaux, et c'est pour ça qu'on entretient, on adore être à Anguin, parce que c'est un rapport presque naturel entre la ville d'Anguin et Artefix.
Oui, notamment avec le Centre des Arts, et où il y a des passerelles autour de l'image, du cinéma, des expositions, peut-être même à une époque avec les bains numériques, et puis avec la pépinière de créateurs d'entreprises.
Exactement. On entretient de très bons rapports avec CDA. D'ailleurs, personnellement, j'ai même été à la dernière exposition récemment, d'ailleurs, cette semaine, de
Ron
Kruger. Voilà, exactement. Qu'on a adoré avec mes équipes. Et c'est vrai qu'on fait aussi le mercredi au CDA la partie cinéma. Le soir, on a un rendez-vous cinématographique où on présente des films, qui est ouvert d'ailleurs à tout public, au public. Et c'est vrai que on participe, on a le CDA aussi a la gentillesse de nous prêter sa salle de projection quand nous avons à projeter les films des étudiants pour le travail de fin d'année. Donc c'est vrai que voilà, on a un rapport assez particulier.
Alors c'est donc Artefix à Anguin. Il y a combien d'étudiants dans votre centre?
Alors, pour l'instant, nous sommes à 64 élèves. La semaine prochaine, nous serons à 75 élèves. Alors, c'est vrai que nous sommes la plus petite école du groupe Artefix, puisqu'à Montpellier, ils sont 650 et à Lille, ils seront 450 l'année prochaine. La seule raison pour l'instant, enfin, nous, on est petits, mais nous allons continuer à grandir parce que nous avons énormément d'élèves qui souhaitent intégrer l'école d'Enghien-les-Bains pour la qualité de son enseignement, mais aussi le fait que nous sommes proches des studios qui sont à Paris et l'emplacement est absolument exceptionnel ici en Enghien. C'est quand même un plaisir de venir et je pense que les élèves l'adorent.
Effectivement, ils ne sont pas dans le béton, ils sont dans un environnement magnifique, je le disais, à quelques mètres du lac, un très bel endroit, une ancienne villa qui a été aménagée en centre de formation. En gros, 70 élèves, comment est-ce qu'ils sont recrutés? Ça, je trouve que... Parce que vous dites qu'il y en a des centaines qui attendent, et... il faut un peu les sélectionner. Comment se passe cette sélection des étudiants ici à Artefix?
Alors, c'est vrai que nous avons... nous faisons les admissions, d'ailleurs, actuellement. Les élèves sont recrutés sur dossier avec un portfolio où ils doivent montrer... alors, ils ont aussi des exercices parce qu'à partir du moment où ils se sont inscrits pour faire les admissions, on les contacte. Ils ont un test le week-end d'écriture, de synopsis, un test de dessin, et ils doivent ajouter leur portfolio, leur travail personnel, afin qu'on les juge. Et ensuite, on fait un entretien avec ces futurs élèves, et on décide ou pas de leur passage, parfois en première année, soit on leur propose de partir en prépa, parce qu'ils n'ont pas, au niveau artistique, ils sont encore un peu faibles, un peu jeunes, et qu'ils ont besoin de travailler un peu plus. Et puis, il y a des gens qui ont plus de facilité ou qui ont suivi des cours d'art avant. Et on les sélectionne justement sur dossier, leur capacité à créer. Ou en tout cas, même cette petite flamme, même si on sait qu'on doit les accompagner pour faire émerger ce talent.
Ils ont quel âge et d'où viennent-ils? Est-ce qu'il a fallu pour eux passer un bac, faire des études, ou bien quelqu'un peut venir à 15 ans, 16 ans, 17 ans à quel moment ils peuvent prétendre entrer?
Alors, en fait, les élèves, il faut avoir le bac. Peu importe le bac, il faut avoir le bac pour pouvoir rentrer à Artefix. Certains élèves ont suivi des cursus complètement différents. Certains ont fait du droit, de la gestion, d'autres ont fait une prépa en dessin. Mais le minimum requis, c'est d'avoir le bac. Et après, on décide sur dossier. Je conseille d'ailleurs, par ailleurs, à tous les jeunes élèves, qu'à partir de la seconde même, si vous ne savez pas dessiner, commencez à prendre des cours de dessin, essayez de vous intéresser à la photographie. L'idée, c'est pas d'avoir des connaissances très marquées, mais de faire preuve de curiosité, d'aller à des expositions, de voir des films différents, de vous ouvrir à autre chose. C'est pas parce qu'on fait des effets spéciaux qu'on attend des élèves qu'ils soient exclusivement des fans de Marvel. On demande aussi autre chose, et c'est vrai que on a besoin de se nourrir des films du passé, de la culture du passé, pour pouvoir écrire l'avenir.
Ça, c'est une très belle formule. On a besoin de la culture du passé pour pouvoir écrire l'avenir. Donc il faut un petit fondement culturel, un peu en littérature peut-être, en poésie, en cinéma, vous disiez?
Voilà, en cinéma, en musique. En fait, le tout, c'est d'être curieux, de s'inspirer de ce qui se fait, de ce qui s'est fait, pour pouvoir se construire, avoir un esprit critique. Ça, c'est important. Donc c'est pour ça que je conseille toujours aux personnes qui souhaitent venir à Artefix de se préparer en amont.
Peut-être en amont aussi.
Ah oui. Je n'irai pas jusque là, sinon les parents vont me tomber dessus. Mais et de faire preuve de curiosité. Et là où on a des lacunes, simplement de prendre le temps. d'apprendre, tout simplement. Il faut savoir se préparer quand on veut passer, rentrer dans une école. C'est un peu comme se préparer à un travail ou un job d'été, ou peu importe, la façon... Voilà.
Très intéressant de voir à quel point les, disons, l'ouverture de cette école à tout type de personnalité, en fait, c'est, si on comprend bien, ce sont des personnalités que vous essayez de faire entrer et que vous allez former, que vous allez contribuer à faire éclore leur propre talent qui n'est pas inné, mais leur curiosité suffit. C'est ça?
Alors, la curiosité ne suffit pas, puisqu'il faut avoir travaillé, il faut pouvoir montrer des choses. Et c'est là aussi où le travail des étudiants en amont de l'admission est important. Nous donnons des cours, effectivement, de dessin pour les premières années, etc. On a eu des élèves qui ne savaient pas tenir un crayon, mais qui avaient d'autres qualités, qui avaient essayé des logiciels, qui avaient essayé de la photo, du montage et des choses comme ça, et qui avaient énormément de volonté, et à la fin de l'année, savaient extrêmement bien dessiner. Après, tout s'apprend, je pars du principe que tout s'apprend. Alors, on devient peut-être pas le meilleur dans un domaine, mais en tout cas, on peut fortement... s'améliorer et se servir justement de ce savoir pour la suite de son apprentissage.
Alors évidemment, comme on se trouve en fin d'année scolaire actuellement, je me mets à la place des parents, des jeunes qui cherchent à orienter leur avenir, et il y a énormément de jeunes qui sont passionnés par ce domaine, soit du jeu vidéo, soit de la création numérique, qui maîtrisent les outils souvent parfaitement. Il y en a, j'imagine, beaucoup qui aspirent à entrer dans ces métiers. Dès à présent, on peut postuler pour entrer dans votre école Artefix.
Oui, alors en ce moment, on est justement en train de faire les entretiens d'admission. Alors ça va bientôt arriver à sa fin, mais il faut donc vite se dépêcher de déposer un dossier. C'est vrai que c'est un métier où il y a, que ce soit le jeu vidéo, les effets spéciaux, sont des métiers qui sont en plein développement. Hein. Le jeu vidéo, c'est à peu près, je crois, 4 milliards, parce que ça concerne les jeux sur tablette, de téléphone, mais aussi les jeux vidéo sur PS4, ou 5 maintenant. mais aussi avec l'arrivée de tous les sites de streaming, hein, Netflix, Amazon, donc il y a énormément de films, de séries produites avec des effets spéciaux, que ce soit en France, à l'étranger, donc il y a un fort développement, un fort marché, un fort potentiel.
Et les jeunes Français sont très bien placés sur ce marché de l'emploi des créateurs?
Alors, c'est vrai que nous avons nos élèves sortis de Artefix, hein, parce que c'est quand même une formation de 5 ans, nous formons des élèves pas simplement être des graphistes, mais être de ce qu'on appelle des responsables, des leads en effets spéciaux. Ce sont donc des équipes, des personnes qui vont pouvoir évoluer très rapidement dans les entreprises afin et manager des équipes. Donc on les forme à manager, on les forme à encadrer des personnes et avoir une vision 360 des effets spéciaux. Voilà.
On va écouter un tout petit peu de musique, Vivienne Domenreif, et on va accueillir des étudiants justement qui arrivent au terme de leur cursus, et ça va être très intéressant, je pense, de les écouter. On se retrouve dans quelques secondes. Nous sommes avec Mika qui se trouve être en cinquième année chez Artefix à Enghien. Et j'aimerais avoir une idée de tout ce parcours qui l'amène bientôt à une vie professionnelle. Au départ, c'était vous envisagez de faire tout à fait autre chose ou bien petit à petit cette idée du graphisme et de l'art numérique vous a motivé?
Alors c'est pas du tout venu tout de suite. Moi pendant mon bac je faisais déjà un petit peu de 3D mais c'était très très léger. Et après mon bac je suis parti en Estonie faire un cursus de mécatronique, donc c'est toutes les sciences pour faire des robots, donc il y avait de l'électronique, des mathématiques, de l'informatique, etc. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas forcément et que j'aimais bien plutôt ce qui était lié à la 3D. Donc là, j'ai trouvé un cursus à Strasbourg qui faisait de l'informatique spécialisée pour la 3D. Et pendant ce cursus, je me suis vraiment rendu compte que ce qui me plaisait dans la 3D, c'était beaucoup plus la partie création, plutôt que la partie programmation sur laquelle moi, qui était la partie principale de ma licence à Strasbourg. Et c'est pendant le projet de fin d'année de licence, où quand on a dû réaliser un jeu vidéo, je me suis occupé de la création de l'univers du jeu, donc les personnages, etc. Où je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui me passionnait le plus. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter mon master en informatique pour venir à Enghien, faire ce cursus qui me permettait de commencer à faire de la 3D directement en master. Donc je suis super content de ce que je fais, mais voilà, c'est arrivé petit à petit, au fur et à mesure de ce que je découvrais, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, etc. C'était pas du tout, c'est pas du tout quelque chose que j'ai décidé juste après le bac, où ça m'est venu comme ça, quoi. Ça s'est fait au fur et à mesure.
Là, vous arrivez donc au terme de tout un parcours très intéressant. Vous avez passé donc 2 ans ici à la Villa Artefix à Enghien. Vous avez travaillé, et c'est un peu l'enjeu de la fin des études, sur un projet. Vous pourriez nous dire quel est ce projet et dans quel univers fantasmatique on se trouve?
Donc on travaillait sur un projet qui, pour plusieurs raisons, a dû être annulé. Mais c'était un dessin animé, un film d'animation, dans un style assez Cartoon Network, donc avec des couleurs assez saturées, un effet un peu 2D, et dans un univers assez délirant. C'était des histoires d'aliens qui devaient récupérer un artefact pour leur boss, qui était totalitaire et très méchant, et il leur arrivait toutes sortes de choses, donc une histoire assez extravagante, assez barrée, et plutôt sur le ton de l'humour.
Qui crée les scénarios? Est-ce que c'est vous-même qui êtes en charge de la création totale, depuis la scénarisation jusqu'à la réalisation?
Alors c'est les étudiants qui créent les scénarios, même si on est évidemment accompagné avec des professeurs tout au long du processus de création artistique. Mais en quatrième année, on définit des groupes. Donc qui veut travailler avec qui, etc.
Souvent, vous travaillez à combien?
On était là à peu près 5 par groupe, un peu plus, un peu moins. Donc en fin de quatrième année, chaque membre du groupe va écrire un speech, donc une idée de base, c'est pas un scénario qui est très détaillé. Avec les professeurs et les élèves, on va choisir un de ces scénarios qui ensuite, avec l'aide de professeurs, va être approfondi. Et donc là, chaque étape de la création, donc, on va être accompagné. Donc l'écriture du scénario, la direction artistique, le design des personnages, des environnements, etc. C'est vraiment nous qui créons tout de A à Z.
Donc, c'est ça qui... Il faut des mois de travail, en tous les cas des heures et des dizaines d'heures de travail pour parvenir à mettre tout ça au point, parce qu'on... On n'imagine pas ce qu'il y a derrière l'image quand on les a devant nos écrans.
C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Nous, comme je vous disais, on a commencé en fin de l'année dernière, donc je pense vers avril-mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y avait toute l'écriture du scénario. Ensuite, après, une fois qu'on a ça, il faut définir un univers. Et donc là, ça veut dire, nous, dans notre cas particulier, comme c'est quelque chose de très cartoon et très particulier, il faut penser au design de tous les objets. Donc ça...
La texture, la couleur, ouais. les mouvements, la gestuelle.
Mais même la forme, par exemple. Si un personnage, je ne sais pas, utilise une fourchette, quelle est l'apparence de cette fourchette ? Il y a une réflexion dans ce qu'on veut dire. Enfin, c'est tout ce qui apparaît à l'écran est vraiment pensé, en fait. Donc, il faut prendre beaucoup de choses en compte. Parce qu'en plus, donc, il y a, comme vous disiez, la texture, il y a aussi la manière dont les scènes sont éclairées, quelles couleurs on choisit, parce que les couleurs peuvent avoir du sens, les designs des personnages pour qu'ils traduisent leur caractère. Quelqu'un qui est très doux, il sera plutôt avec des formes arrondies. Un méchant, il aura des formes un peu plus aiguës, un peu plus pointues, etc. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte et ça prend du temps. Là, pour un court-métrage de 3 à 5 minutes, il y a un an de travail pour une équipe de 7 personnes.
Voilà, je crois qu'on ne se rend absolument pas compte du travail qu'il y a, des centaines d'heures de travail, des milliers d'heures de travail qu'il y a lorsqu'on a quelques images devant soi. Ça, c'est vraiment saisissant. Vous dites pratiquement un an pour 3 à 5 minutes de film, d'animation. Vous parliez de... Tout a du sens, en fait, dans l'image. Vous êtes attentif à tout ça ? Vous avez une réflexion en groupe lorsque vous travaillez sur... Vous parliez de la forme d'une fourchette. Tout a du sens, c'est ça ?
Tout a du sens. Après, c'est aussi des choses qui viennent assez, assez naturellement. Enfin, par exemple, si on veut quelque chose de très réaliste, pour garder l'exemple de la fourchette, on va plutôt prendre un modèle de fourchette qui ressemble à ce qu'il y a dans la vraie vie. Si on veut le simplifier, on va voir... Enfin, en même temps, il y a tout à du sens, mais il y a beaucoup de choses qui se font de manière assez logique au final.
Mais est-ce que vous êtes encadré pour faire tout cela, ou bien vous faites ça un peu à votre manière ?
Non, on a la chance d'être encadré, sinon ce serait vraiment impossible. Donc comme je disais, pour le scénario, il y a des professeurs qui sont scénaristes, qui nous aident à rédiger un scénario qui a du sens, qui est cohérent. Pour la création de nos environnements, on a un professeur qui est spécialiste dans ce domaine. Pour chaque étape, on est accompagné par une personne dont c'est le métier, qui a vraiment des compétences dans ce domaine. Donc, non, sinon, ce serait vraiment très difficile. Il y a trop de choses auxquelles on ne peut pas penser quand on est un débutant, en fait.
Oui, donc le corps professoral est très intéressant et très important pour vous, mais ce sont avant tout des intervenants qui sont des professionnels. J'imagine, ce ne sont pas que des professeurs qui font un cours.
Ah non, tous les intervenants qui viennent sont des professionnels qui viennent une à deux fois par semaine pendant... Alors, ça dépend des domaines. Mais ils peuvent venir, par exemple, pendant une semaine, tous les jours, travailler une chose à fond. Mais sinon, tous, à côté, ils ont un travail. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment un œil de professionnel et comment on fait dans la pratique, quand on travaille en studio, pour réaliser une certaine étape.
Oui, on évite évidemment les aspects un peu trop didactiques, trop théoriques dans votre formation. Là, on arrive, c'est un bouchon qui tombe, c'est pas prévu dans le scénario. Vous arrivez à la fin donc, de votre cursus, vous allez faire quoi ? Vous allez chercher, on cherche du travail quand on est en fin de cycle Artefix ?
Alors, ça dépend, les gens qui sont très très talentueux, c'est plutôt les studios qui viennent les chercher.
Ça arrive ?
Oui, ça arrive tous les ans, il y a des gens très forts. Alors, on cherche du travail, après on a la chance d'être dans un domaine qui est en pleine expansion, qui est très dynamique. Donc en général, on n'a pas à chercher trop longtemps non plus. Surtout quand on vient d'Artefix, qui est quand même une école qui est assez réputée, c'est une situation qui est très confortable. Après, moi dans mon cas particulier, je vais essayer surtout de chercher dans des studios... qui font plutôt des films d'animation. C'est un univers que j'aime bien explorer. Parce que j'aime bien tout ce qui est très coloré, tout ce qui est très délirant. Donc c'est personnellement plutôt là-dedans que je vais essayer de m'orienter, je pense.
Très bien. Eh ben, un grand merci, Mika, pour nous avoir fait partager toute votre expérience et votre avenir immédiat. Un grand merci encore. On est toujours à Artefix. On va écouter un de vos choix musicaux. D'ailleurs, un choix musical qui est du rap japonais, Aphrodite Gang. Et on se retrouve dans quelques instants.
Yeah, represent Aphrodite Gang, Nippon, Japan. Yeah, Delta 9 K idea, G Plants, D Bubbles, Butterfly Kush, RIP は104. In the house, yeah, yeah.Yeah, 上を見て振り返れ繰り返しては下を見て探してた半透明な結晶は聞こえなくなった右耳や左腕の静脈に溶けていった刺した針の数が今に水を差し焼けが差した前後すれ曖昧な記憶へ燃やすようはことごとく白く上がる煙へ白っきりフライガール毎日へ毎日へスモークするマリファナ俺が育ててる俺と仲間たちで育ててる偽る世間出回るの遅いねえよ金じゃないえいよ声からスタミ吸い込む極上なウィード日本メイドホッタン熊谷が地元はここにいるいつでもここから飛び立つジグザグの裏巻き願い事のようにリリックを書いてぶっといビーツ道の賭け血を這う言葉行動一つ全員分からしてやるクラムでも疲労もいいよ大体ジョイント先に光る大体色は集合お神解散しろ一人で見れない希望じっとは考えてるリリックはそれは一人でも大勢でも変わらないことは簡単が最近心は察して先歩く見ろ表情は 2,3 日後体が開く家まで迎えに行くからよまた会おう
オロスライム災い偽りへはいらない耳に入るその扉偽物は聞かないあげるライフアフロギャング手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモークはスワイヤー偽りへはいらない音に浸かるこの旅言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹ゴッドブレスの導き
殻を破り役回りは向いていく風髪へ根元から絡まりつき刈り取りした塊へ映す鏡へ憎まれては世にはばかりへ降りしきる雨の中しぶき上げた羽ばたきへ空を舞うでけえ羽振りよくするハーブリー生い茂るハーブにキャナークはスパークリン雲描くペンを走るだけ書きため打ち負けるグリーンクラック仰ぐ左内輪でポリスや邪魔者に何一つ話さず違法タイム不法を所持してる肌身晴らさず音鳴らすこの葉は鋭利ついた言霊耳を刺し目につく口に出し仕事柄てめえで役盛り届きそうな月より消えるワンロールはこの扉燃えて罪滅ぼし神の施し寄せて返す俺のところに火の種熱したライムこそ冷ましたほとぼりこの後に及んで眠れず夜は朝方山盛りケミカルよりより範囲な明日が見えるゴールが遥か星の彼方じゃ溶かしたグラムはゴールドより高い花束
Voilà, nous sommes toujours dans notre émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy sur IDFM Radio et notre invité ce soir est l'école Artefix. Nous sommes dans la villa Artefix à deux pas du lac d'Anguin et nous sommes, après avoir parlé avec Vivienne Domenreif de toute l'organisation de l'école, d'avoir parlé avec Mika, étudiant en cinquième année, nous avons quelqu'un qui connaît parfaitement depuis des années Artefix, puisqu'elle a fait ses études à Montpellier, au cœur même du système, et qui est désormais intervenante professionnelle, enseignante, coordinatrice des travaux de fin d'études. Bonsoir Lola Rossi.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Vous avez vécu, vous, le cursus, c'est vraiment très intéressant de connaître parce que vous avez des tas de qualités graphiques, photographiques, des tas d'expériences. Vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qui vous a amené à ça et comment ça s'est déroulé, votre cursus d'étudiante et maintenant de prof.
Alors donc moi j'ai fait l'école Artefix que j'ai terminée en 2016. En arrivant à Artefix j'avais déjà un profil qui était un petit peu à part parce que je voulais pas vraiment travailler dans les effets spéciaux. Du coup, en sortant de l'école, j'ai quand même travaillé un petit peu en studio, mais suite à ça, j'ai plutôt travaillé dans les arts numériques, où j'ai fait de la direction artistique, de la réalisation de films et de la photographie, en Allemagne et en Angleterre. Je suis ensuite revenue à Paris et on m'a proposé d'enseigner la photographie à Artefix et de réaliser un film avec les étudiants en quatrième année, un film qui était réalisé en production virtuelle, en partenariat avec le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.
Donc une expérience vraiment de terrain et de création. Hein. Qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez les étudiants qui viennent ici à Artefix?
Alors tout d'abord de la créativité, je pense une certaine forme de rigueur aussi, parce que c'est des métiers sur lesquels on est formé à devoir répondre à des deadlines, à répondre à des constructions, à des structures de travail qui sont très précises. Donc de la créativité, et je pense l'aspect humain est aussi 50% de ce métier, donc une forme d'humilité, de travail en équipe, de possibilité de travail collaboratif, mais voilà, on regarde leur portfolio et on fait des petites interviews pour discuter avec eux et voir un peu comment ça peut se passer.
Il y a des milliers de jeunes qui rêvent de travailler dans ces métiers-là. Donc, vous n'attendez pas d'avoir des artistes déjà tout faits, ni même à la fin des études. Leur rapport avec l'art, on parle d'art numérique, est-ce que c'est une manière polie de dire que ce n'est pas exactement de l'art ?
Alors, non. Enfin, c'est-à-dire que nous, Artefix, on forme vraiment des artistes en effets spéciaux numériques, en animation ou en jeux vidéo. Moi, mon profil, c'est plus un profil d'artiste numérique, ce qui s'établit sur... C'est un peu flou, en fait, quelquefois aussi, cette dénomination-là. Mais nous, on va vraiment les former à être créatifs, tout en étant techniques. Donc, il y a vraiment une vraie balance à trouver entre ces deux choses-là. C'est très important pour nous aussi qu'ils aient un apport de culture plus traditionnelle, un peu moins geek que celle qu'ils peuvent avoir des fois quand ils rentrent dans l'école. Mais on les forme quand même à des métiers qui sont très techniques, qui nécessitent une compréhension du milieu d'un ordinateur, de l'informatique, de certains logiciels, d'un peu de code aussi souvent. Voilà, c'est une vraie balance entre les deux. Mais c'est vrai que le métier d'artiste numérique et le métier de graphiste en effets spéciaux sont quand même assez différents. C'est pas les mêmes institutions, c'est pas exactement les mêmes prérequis, on va dire.
Oui, on a tout un public aussi sur Enghien qui commence à percevoir toute la magie de cet imaginaire que vous produisez vous tous les jours. Peut-être vous en êtes blasé, non, de l'imaginaire produit par toutes ces machines et toutes ces cervelle qui aspire à surprendre.
Alors non, pas du tout, forcément, parce que c'est infini en fait, on peut faire absolument ce qu'on veut, que ce soit en effets spéciaux, en animation, en jeux vidéo, toutes les possibilités sont infinies, on peut reproduire la réalité, la transformer, l'embellir, la fantasmer, voire même la transcender dans certains, voilà, mais c'est complètement libre, c'est un champ d'expérimentation qui est infini, surtout avec les nouvelles technologies qui arrivent actuellement. On a une veille technologique à faire qui est très importante, où on doit vraiment se tenir au courant des nouvelles possibilités comme l'intelligence artificielle, enfin beaucoup de choses, et cette partie-là fait que notre travail évolue en permanence et qu'on a toujours des nouveaux challenges ou des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, donc on s'ennuie pas du tout, ça va très vite, donc en fait on s'ennuie pas du tout.
Oui, on voit bien chaque année au moment des PIDS, c'est-à-dire c'est un grand prix, un grand concours de la création numérique artistique mondiale qui se déroule ici même à Enghien-les-Bains, et c'est vrai qu'il y a une infinité de possibilités. À la fois, on a une imagerie très poétique, comme une imagerie plus extravagante, peut-être plus violente parfois, non ?
Je pense que c'est les cultures geeks en général qui oscillent un peu sur ces deux champs. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent avec une culture très science-fiction, un peu post-apocalyptique, pardon. Donc il y a tout ce pan-là, et en parallèle, on a tout ce qui va être du cinéma un peu plus avec des références comme Miyazaki ou plus animé, des choses. Donc c'est vrai que ça oscille beaucoup entre ces deux univers-là. Nous, l'idée, c'est aussi de quitter un peu cette culture-là pour les faire travailler autour de cultures plus traditionnelles aussi. Donc venir s'inspirer de visites de musées, d'œuvres d'art, de peinture, d'une culture artistique qui soit plus vaste que la culture geek, qui est déjà très bien, hein, mais on essaie de les ouvrir aussi un petit peu à des choses un peu plus larges. Donc l'idée, c'est d'expérimenter autour de ça. Voilà.
L'imaginaire que produit, par exemple, la littérature, c'est quelque chose qui contribue à la créativité que vous attendez de vos étudiants, ou bien c'est un élément trop littéraire, alors que vous êtes plutôt du côté de l'image. On se demande aujourd'hui si il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas de trop grande saturation des images.
Alors, ça tombe bien. Enfin, moi, c'est mon champ d'exploration dans mon travail. Donc, du coup, c'est vrai que, en effet, c'est un vrai sujet. Donc, bien sûr, nous, on participe à cette à nourrir en fait cette production d'images. Bon, maintenant, c'est inévitable. Hein. Je veux dire, on peut pas faire autrement. Ce qui est important pour nous, en tant que professeur de photographie, moi, par exemple, on a beaucoup de discussions philosophiques autour de la nature de l'image, autour de ce qu'est une photographie. Face à la surproduction qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. C'est des discussions qu'on a énormément. Je pense que maintenant, on n'a pas de solution précise à ça, mais c'est un champ d'exploration, et je ne pense pas qu'il faille travailler en réaction à ça, mais plutôt en association avec en analogie et en utilisant ces problématiques sociales-là. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de discuter avec nos étudiants. Ils sont plus jeunes, donc en plus, ils ont des points de vue qui sont hyper intéressants et très différents de ce que nous, on peut avoir aussi. Voilà.
On discutait avec Mika il y a un instant du sens de chaque image, d'abord du temps qu'il faut pour créer tout cela, il faut une infinité d'heures, mais aussi du sens, c'est-à-dire que on parlait de la forme d'une fourchette, la forme d'un corps, la forme d'un visage. Tout donne du sens. Est-ce que dans le cursus, il y a l'apprentissage ? Parce qu'on parle beaucoup maintenant de l'apprentissage à cause des fake news. On a quelquefois une sorte de flou entre ce qui est plausible, entre ce qui est vrai et ce qui est complètement faux. Et donc, pour donner du sens, est-ce qu'il y a de la sémiologie, des cours de sémiologie dans le cursus ? Est-ce qu'on peut vous aborder ça de manière très concrète, j'imagine ?
Alors, je pense que le fait d'avoir la capacité à construire des fausses images, entre guillemets, peut-être leur permet justement de mieux les détecter d'une certaine manière. Je pense que, enfin, moi personnellement, ayant appris à fabriquer, à fantasmer des images, à fabriquer des fausses images, je pense que ça permet d'avoir un esprit critique plus sur justement tous ces mouvements-là et toute cette société-là. Maintenant, le sens des images, nous, on en parle plus de manière narrative. Alors, nous, on forme des réalisateurs et des réalisatrices, mais quand même plutôt des artistes VFX. Donc c'est vrai que
VFX, ça veut dire effets spéciaux.
Oui. Des artistes en effets spéciaux, des animateurs, animatrices ou des métiers du jeu vidéo. Donc du coup, c'est vrai que on essaie d'avoir cette discussion là avec eux. Maintenant, je sais pas si on pourrait dire qu'on a vraiment des cours de de sémiologie.
Oui, vous avez une approche plus pragmatique et puis qui, effectivement, la création entre la fabrication d'images complètement farfelues donne une idée de ce qui peut être vrai. Et on fait la différence maintenant entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, et évidemment, grâce à ces technologies, on peut modifier complètement l'idée d'une sorte de vérité.
Alors ça, c'est un champ d'exploration en art qui est énorme, mais en effet l'intelligence artificielle, elle pose vraiment ces questions là je pense que c'est un sujet qui est quand même très long à aborder. Je pense que nos étudiants, nous, ils travaillent quand même sous la direction de réalisateurs et réalisatrices. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas vraiment confrontés directement à... Enfin, ils sont confrontés à ces sujets-là de par leur métier, parce que notre métier peut... Enfin, c'est compliqué. Le rapport du métier de graphiste d'effets spéciaux avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, en effet, c'est des challenges sur lesquels on est obligé, nous, de se former pour l'aborder d'une certaine manière en tant qu'école. Ça, c'est évident. Maintenant, je pense que, pour moi, il faut connaître très, très bien ces outils. Il faut les comprendre. Il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et dans tous les cas, il faut être de plus en plus créatif avec, mais on ne peut pas vraiment se poser en opposition par rapport à ça. Donc je pense que nos étudiants et nos étudiantes mûrissent une réflexion personnelle sur ces sujets, mais nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, on en parle avec eux, mais on n'a pas vraiment de cours qui sont dédiés à ce sujet-là.
Oui, ouais. Non, mais vous l'appliquez forcément... au cours des projets, des réalisations de projets. On est à plus ou moins la fin de l'émission. Peut-être on va retrouver Vivienne Domenreif pour une petite synthèse de tout cela. Un très grand merci, Lola, aussi pour votre éclairage, votre regard d'artiste, de créatrice graphique et d'enseignant ici. Je pense que les étudiants doivent apprécier la grande expérience que vous leur apportez dans leur travail. Merci beaucoup.
Merci.
I'm in love with your brother.
Voilà, toujours dans notre émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy et notre invité est la Villa Artefix, l'école de création et de graphisme numérique, d'effets spéciaux. Nous arrivons évidemment au terme de l'émission et nous retrouvons Vivienne Domenreif, la directrice de l'établissement. Vivienne, on a rencontré un de vos étudiants, ils travaillent tous avec une grande passion pour l'image, grande passion pour la technicité. J'aimerais qu'on, pour finir, que vous nous donniez les perspectives peut-être d'emploi. Est-ce qu'ils arrivent à trouver du travail et dans quoi? Quelques idées là-dessus.
Alors, à l'issue de nos 5 années d'études, on a à peu près 98% des élèves qui trouvent un emploi, ou 95%, ça dépend des années. Ils sont relativement bien formés, enfin, ils sont même extrêmement bien formés, c'est pas relativement, mais très bien formés. Et surtout, on a une réputation auprès des studios où nos formations, elles sont quand même tous les ans sont repensées pour matcher avec le travail des studios et leurs besoins au quotidien. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger, mais qui travaillent aussi dans des studios en France.
Quelques exemples de ceux qui sont partis à l'étranger.
Alors, on a beaucoup d'élèves qui travaillent sur la plupart des longs métrages qu'on voit, des blockbusters, des Marvel. On a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur des Marvel, donc soit ils travaillent en Angleterre, soit au Canada. On a des étudiants qui travaillent sur des séries de grosses productions de Netflix. On a des élèves qui ont travaillé sur le film Eiffel, donc le film français Eiffel. On a beaucoup d'animateurs, voilà, c'est quelques exemples comme ça d'élèves en France ou à l'étranger, qui partent à l'étranger et qui font leur carrière et qui évoluent assez rapidement, puisqu'au bout de 5 ans, ils deviennent déjà responsables, CJSUP, comme on dit, où ils encadrent des équipes et des effets spéciaux et ils sont confrontés aux équipes de production et des clients.
On parlait tout à l'heure avec Lola Rossi de la nécessité d'être capable de travailler en groupe. C'est un élément, je crois, au-delà de la technicité, tout ça, qui fait partie du métier.
C'est primordial. Nos élèves, on leur enseigne à travailler, à faire des projets en équipe, parce qu'un film, ça ne se fait pas tout seul, une série, ça ne se fait pas tout seul, et un plan ne se fait pas tout seul. Donc, on enseigne aux élèves à travailler en équipe, à être responsables un peu les uns des autres, d'être présents, et de communiquer. C'est très important de communiquer. C'est un peu la base de notre métier. Et c'est ce qu'on enseigne, entre autres, à l'école. L'entraide, c'est une école très exigeante, mais on accompagne énormément les élèves et ça accompagne entre eux. Voilà.
Voilà, il y a donc l'élément de créativité qui est évidemment nécessaire, de culture générale qui est aussi un point important, la capacité de communiquer les uns avec les autres, la technicité, c'est-à-dire la maîtrise des outils informatiques, ça fait quand même des gens de très haut niveau.
Oui. Ce sont nos élèves ont une vision un peu 360 de tous les logiciels et de tout le process de travail, la pipeline en effets spéciaux. Donc, ils touchent un peu à tout, ils touchent à tout pendant ces 5 ans. Et ils ont un regard artistique assez pointu. Donc, c'est ce qui est très apprécié aussi par nos studios, par les studios qui les emploient. Voilà,
donc on arrive au terme de l'émission. Un très grand merci pour votre accueil dans votre très belle villa à 2 pas du lac d'Anguin, Villa Artefix. Trois centres pour Artefix, celui de Montpellier, celui de Lille et celui d'Anguin-les-Bains. Merci à Mika qui nous a donné son point de vue très intéressant sur le cursus. Merci à Lola qui nous a beaucoup éclairé également sur la problématique autour de l'image. Et puis, merci à Francky qui a réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission entre chiens et loups. Rendez-vous à 18h lundi prochain. Merci de votre fidélité. Il va être bientôt 19h et c'est l'heure de retrouver Lusso Mundo, l'émission en langue portugaise. Merci et bonne soirée à tous. Merci encore Vivienne.
Merci à vous, Claude. Au revoir.